Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Effectivement, il n'y aura pas de motion de censure pour notre émission Mon Paris Sport, hein, puisqu'on va encore vous offrir tout plein de choses au cours de cette émission. Donc entre 19h et 20h30, on ira sauter de falaise avec un invité qu'on aura par téléphone, Jérémy Nicolin. On fera un petit bilan du Téléthon sur Paris. On aura naturellement la page foot avec notre ami Stéphane Desenclos, le journal des sports de notre ami Alexandre. Et puis ce soir, on va avoir comme invité principal, j'allais dire pratiquement le patron du sport parisien, président du comité départemental olympique et sportif, donc Frédéric Laferrière. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir à tous. Ouais,
ça va, patron du sport, hein, je ne me suis pas trompé. Hein.
Ouais, non, c'est un grand mot, mais c'est sympa, c'est toujours sympa.
Ouais, ouais.
Oui, oui, en tout cas, on essaye de fédérer et d'initier des idées qui peuvent aider le sport parisien.
Très bien, donc on va parler naturellement de tout cela. Je crois que ça fait 20 ans que vous êtes dans le milieu.
Oui, ça fait 20 ans que je suis élu au comité olympique, mais dans le milieu sportif parisien, je suis depuis que j'ai 10 ans.
Ouais. Chapeau en tout cas.
Je suis parisien depuis que je suis né, et je fais du sport à Paris depuis que j'ai 10 ans, donc je suis quand même assez vieux maintenant, donc ça
Très
fait
bien.
Un bon temps.
Alors j'avais dit qu'on parlerait du Téléthon, je veux saluer Virginie. Bonsoir Virginie, ça va?
Bonsoir Philippe, ça va très bien.
Ah bah ça s'est très bien passé le Téléthon apparemment.
Ah oui, c'était très bien.
Eh ben on va en parler parce que le sport hein, est très souvent porteur sur le Téléthon. Je vais saluer l'équipe qui m'accompagne, elle se prépare pour partir à Grenoble dans quelques jours. C'est Vanessa, bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, très
ça
bien.
Ça va, t'as prêt? Les patins sont prêts?
Oui, bien sûr. C'est pas moi qui serai sur la glace.
Oui, hein. je sais bien. Et puis, je l'ai dit, il va nous parler du journal des sports. Bonsoir Alexandre, ça va?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, ça va?
Bon, là, tu étais un petit peu moins dense hein, ce week-end.
Comparé à la semaine dernière, oui.
Ah oui, oui,
un petit quand peu même des moins choses à raconter.
Mais bien sûr, des belles choses même.
Il y a toujours en sport des choses à dire et à raconter. Alors, monsieur Laferrière, donc, vous nous disiez, vous êtes dans le domaine du sport depuis très longtemps. C'est arrivé comment d'abord le GDOS?
Alors,
la pratique d'abord.
Alors d'abord, vite fait, oui, je suis pratiquant, je suis sportif, j'ai été handballeur pendant très longtemps à Paris. Ensuite, j'ai fait du karaté à Paris, j'étais professeur de karaté à Paris.
Ah ouais, bien.
Voilà, après j'ai fait de l'escalade, alors moins à Paris, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de salle, il n'y avait pas de salle à l'intérieur. Mais voilà, j'ai toujours resté à Paris et je suis resté ensuite, je me suis occupé de clubs, d'associations. Et je suis rentré tout naturellement au comité olympique en 2003, donc ça fait 2004, ça fait 21 ans maintenant.
Ouais. Alors, est-ce que c'était plus facile à l'époque? Est-ce que faire du sport sur Paris, c'était beaucoup plus évident il y a 20-30 ans?
Paris a changé un petit peu, le monde a changé, les pratiques ont changé, les désirs ont changé. Je lisais dans un rapport chiffré que l'intérêt des Parisiens en premier, c'est le sport santé. Pour faire la pratique du sport, l'intérêt de la pratique du sport.
Sport santé, sport loisir donc.
Ouais. 70% des gens le mettent en tête. Mmh. Et 10% des gens mettent la compétition en tête.
Ouais, bien sûr.
Je crois qu'il y a 50 ans, c'était plutôt la compétition. La santé, je pense qu'elle était loin. Donc ça s'est inversé par les intérêts que la société a mis en avant. Et je pense que c'est assez important. Ça change aussi donc les pratiques. Pratiques individuelles, hors club, dans la rue, le roller, le jogging, etc. Bon, tout ça a changé. La ville s'est adaptée. Paris, avec les maires successifs, se sont adaptés, je trouve, assez bien. Voilà, maintenant, c'est une adaptation un peu incessante quand même. Hein.
Oui,
et puis, en même temps, le sport dans un club, c'est extrêmement important sociétalement. C'est ce qui fait société, en fait, dans
vie,
le monde du sport.
C'est le partage.
Hein. Voilà, c'est la vie, le partage, le mélange, la mixité, tout, quoi.
Absolument. C'est très, très bien de faire son footing tous les dimanches matins.
Oui.
Et voilà, j'encourage tout le monde à courir, à faire du vélo, etc.
Mais il n'y a pas que le dimanche, parce que dans Paris, des fois, à 5h30, à 5h,
même le soir,
il y en a qui font le footing. Hein.
Ah, oui. Moi, quand je rentre du bureau, des fois, il est tard et j'en vois qui court. Hein. Donc, oui, bien sûr. C'est très bien. Mais on trouvera l'énergie citoyenne au sein d'un club. Et c'est très important que les jeunes s'inscrivent dans des clubs, Ouais. Qu'ils aient le désir de faire du foot, du hand, du volley. On peut faire. Alors, même si Paris, c'est difficile, hein, parce qu'on a un problème de foncier, on a beau vouloir construire des piscines et des gymnases, c'est extrêmement difficile à Paris. C'est pas une question de volonté politique, hein, c'est extrêmement difficile. Ouais, ouais. Mais on peut pratiquer quasiment tous les sports à Paris. Oui, alors ça, c'est absolument important.
Justement, j'allais vous poser cette question. Il n'y avait peut-être pas la même diversité de sports qu'il y a 30 ans sur Paris.
Non, ça, c'est, on s'est adapté, en fait. Hein, voilà. C'est les sports nouveaux arrivent, Paris est au rendez-vous à chaque fois. Mmh. Là, il y a des sports comme, je sais pas, le parcours qui est un sport qui rentre maintenant dans les pratiques gymniques, qui avant était représenté par un film comme Yamakasi qui a porté cet élan. Puis maintenant, c'est vraiment une discipline sportive. Il y a des clubs qui en font. Paris est juste là, par exemple.
Oui, et puis faire du sport qu'en loisir et qu'en sport santé. C'est peut-être aussi un petit peu tendance. Actuellement, on n'a plus envie d'avoir de contraintes, quoi.
Ouais,
beaucoup n'ont plus envie d'avoir de contraintes. Ce côté de l'association, ils n'ont plus envie d'avoir de contraintes, quoi. Alors, on est libre, je fais ce que je veux.
Absolument. Absolument. Ouais. Il y a ça. Il y a aussi l'inquiétude de sa santé, je crois.
Ouais, oui,
on voit.
Les chiffres sont alarmants, même chez les enfants. Déjà.
Les chiffres sont alarmants et depuis longtemps, moi, j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 47 ans au niveau de l'éducation physique, ça c'était mon métier. Et en fait, je peux vous dire que l'obésité chez les enfants, ça fait 30 ans qu'on la dénonce avec des amis qui étaient autour de moi, comme le professeur Trentowski et d'autres qui ont alerté très très fort et il y a très longtemps. Je vous parle de la fin des années 80 où déjà on voit que ça va pas bien, quoi. Et ça s'est vraiment pas arrangé.
Oui, j'allais vous dire, apparemment, ça va pas s'arranger, même s'il était un cheval de bataille de Paris 2024, hein, malheureusement.
Il a vite été abandonné, le cheval de bataille, parce que là, avec les coupures de budget du ministère, c'est-à-dire que les collectivités territoriales financent 80%, et avec les nouvelles coupures, comment on va faire, je veux dire. Déjà, on essaye, déjà, Paris 2024 a créé un engouement sur, justement, la pratique, il y a eu beaucoup de demandes. Mais si on coupe les budgets, comment on fait pour accueillir les gens correctement, comment on fait? Parce que là, quand même, c'est un peu le gros coup de gueule aussi, et je me permets juste de rebondir sur ce que vous dites, que je voulais pousser, parce que c'est tout de même inadmissible, tout ce qu'on voit depuis l'après-jeu, les primes des sportifs de haut niveau, des médailles olympiques, pour être plus précise, imposables, la coupure des budgets, puis il y avait encore autre chose que j'ai oublié, mais tout ça, c'est juste pas possible. Yeah. Et après, on dit qu'on veut faire le sport comme grande cause nationale, le président de la République.
Ouais, les deux heures en moins au collège.
Les deux heures en moins,
collège,
voilà, c'est ça. Ouais, excusez-moi.
Non, mais voilà, on a vécu une parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques à Paris.
Madame Hidalgo a dit que c'était plus qu'une parenthèse. Hein.
Elle a tout à fait le droit de dire ce qu'elle veut. Moi, je l'ai vécu comme une parenthèse enchantée parce que moi, je suis dans le sport avec les mains dans le cambouis depuis longtemps. Donc, je peux vous dire que c'était une parenthèse enchantée. J'étais ravi de voir les quelques épreuves que je suis allé voir et j'étais ravi de les voir. Il n'y a aucun problème.
À quelle épreuve vous avez vu?
J'ai vu un peu d'athlée, j'ai vu du judo, j'ai vu du tennis de table. Voilà, je tournais un petit peu.
Alors, c'est intéressant parce que des gens comme vous qui êtes dans le sport depuis des années et des années, est-ce que vous étiez aussi partie prenante dans Paris 2024? Est-ce que vous avez eu des actions concrètes?
Vous savez,
pas seulement spectateur.
Oui, on a eu, nous, au niveau du comité olympique, on a pris l'initiative en amont, puisque j'ai été élu président en 2017, juste 2-3 mois avant la candidature officielle.
13 septembre 2017, voilà. on y était, je me souviens.
Voilà, à Lima, et j'ai été élu en avril ou en mars. Donc voilà. À partir de là, je savais qu'on avait les Jeux, même quand j'ai été élu, parce que je savais que Paris allait les avoir, de toute façon, comme tout le monde.
Et après, on s'est tout de suite se mettre d'accord avec Los Angeles.
Bien sûr, on s'est mis d'accord avec un petit chèque et ça s'est arrangé, il n'y a pas de problème. Et donc après, il fallait y aller, quoi. Fallait y aller. On avait 7 ans, nous, pour porter des projets, pour accompagner Paris vers les Jeux, parce que notre territoire, c'est Paris. Nous, c'est vraiment intra-périphérique. Et il y a quand même 3000 et quelques clubs à Paris. Hein. C'est pas rien. Il y a 170 ou 180 clubs de foot. On ne se rend pas bien compte, Paris, ce que c'est énormément de sportifs.
C'est un gros vivier.
Mais énormément de clubs. Et donc, 65 000 bénévoles. Vous voyez, c'est beaucoup de gens.
Oui, c'est bien,
c'est un vivier très, très riche. Et donc, voilà, on s'est dit, on va y aller, on va les accompagner le mieux possible. Et on a été vers le côté culturel. On a mis au point 4 conférences de très haut niveau en termes d'interlocuteurs à Paris pour accompagner les jeux, par l'histoire, etc. Mmh. Et on a accompagné, grâce à la ville de Paris, les clubs et les bénévoles dans des formations spécifiques.
Ouais. C'est important ça, hein, parce que bon, beaucoup de gens sont bénévoles, mais on n'a pas toujours la formation ouais, économique, sociale, non, logistique même. Hein,
et malheureusement, ça bouge, hein. Je suis obligé de rebondir sur ce que ouais, notre ami a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, je disais qu'on a passé une parenthèse enchantée, je l'ai vécu comme ça, mais sans paraphraser Mylène Farmer, là, on est dans un héritage désenchanté, quoi. Ouais, parce que
ça commence.
C'est terrible ce qui arrive. Non, non, oui. 20% de baisse du ministère des Sports.
Mais attendez, il n'y aura peut-être pas le budget qu'il faut.
Alors, ça, c'est encore autre chose. Dans le budget qui allait être voté, je vais être prudent, qu'il le sera ou pas,
ça dépend d'une personne.
On avait déjà 20% de moins. Ouais. Bah, et 20%, c'est énorme. Mmh. Hein, 20%, c'est énorme. C'est pas une petite somme, c'est de l'ordre de. Vous savez, le budget des sports en France, c'est que dalle. Hein. C'est 0,2 ou 3%, c'est rien
déjà
du tout.
Hein. Que c'était,
Alors, quand on veut en faire une nation sportive, c'est pas que remettre des médailles après les Jeux ou pendant les Jeux. Hein. Une nation sportive, c'est des jeunes qui font du sport, c'est des filles et des garçons qui font du sport ensemble. C'est toute une société qu'il faut remettre en ordre de marche par rapport au sport. Hein. C'est un gros boulot et donc ça va demander de l'argent et de l'énergie. Oui. L'énergie, je pense qu'il y en a. Il y a plein de gens qui ont envie. Ouais. Plein de gens.
Ça, c'est clair.
Après, il faut un peu d'argent quand même pour initier les choses et sécuriser les pratiques. Voilà. Donc, il faut faire confiance au club. Il faut faire confiance au comité qui organise les compétitions quand c'est des compétitions. Mais même les pratiques urbaines, il faut faire confiance à des gens qui connaissent ce que c'est pour pas faire n'importe quoi. Et là, ça va nécessiter un petit peu de fonds. Je pense malheureusement, c'est mon analyse, je quitte mes fonctions puisque je ne me représente pas pour un troisième mandat en mars. Donc je suis encore président pour quelques mois.
Mais vous serez quand même...
Je vais rester avec un œil attentif avec les suivants, bien sûr. Ouais. Mon analyse est la suivante. Le sport dit amateur, c'est-à-dire qui n'est pas professionnel spectacle. On va les laisser un peu de côté, ceux-là. J'aime bien les regarder aussi, mais c'est un sport spectacle. Il y a une économie propre, etc.
Il ne faut jamais qu'ils oublient qu'ils viennent de la base. Hein.
Les pratiquants, ils viennent de quelque part, de toute façon.
Non, mais il ne faut jamais l'oublier.
N'importe lequel, de n'importe quel sport, il a commencé avec son club. Donc ça, c'est sûr. Par contre, on va les mettre de côté en termes d'économie. Mais je pense que les clubs amateurs, le monde du sport amateur, dans les quelques années, 10, 15, 20 ans qui sont devant nous, va devoir apprendre à vivre seul. Va devoir apprendre à aller chercher des partenaires privés. Va devoir apprendre à aller chercher du mécénat, du sponsoring. Parce que de toute manière, ce qui est en train de se passer, et moi je le vis comme ça,
c'est l'argent public,
le désengagement de l'argent public, ça ne va pas s'arranger.
C'est nos impôts fatalement, donc
ça ne va pas s'arranger, même si... Ça va continuer en partie, parce qu'on ne pourra pas abandonner totalement les choses. Oui. Mais il va y avoir des baisses de plus en plus. On nous a annoncé au CNO déjà sur les territoires, il y aurait une baisse de 20 à 30% cette année, après les Jeux, je ne sais pas, vous voyez. Donc ça ne ruisselle pas vraiment, vous voyez. Ça ruisselle pas vraiment.
Et puis les entreprises privées, elles ne veulent peut-être pas toutes jouer le jeu aussi. Hein.
Il faut leur trouver un intérêt.
C'est ça, oui.
Et je pense qu'il y en a. Mais on ne s'est jamais vraiment posé la question, vous savez, dans le sport, parce qu'en fait, quand on est dans un club parisien ou d'une autre ville, peu importe, on a l'habitude de vivre avec quoi ? Dans un club. Hein. Le comité olympique, c'est encore autre chose. Mais dans un club, on a l'habitude de vivre avec les subsides des parents ou des gens qui, s'ils sont des adultes, qui s'inscrivent et qui payent une cotisation. D'accord. Puis ça ne suffit pas, généralement. Non. Donc on va chercher des subventions qu'on arrive à avoir en montant des projets adaptés à la demande ou du ministère ou de la ville ou du département. Et puis voilà, donc on a un fonds financier qui vient des pratiquants et une part qui vient des subventions. La part qui vient des subventions est en train de tomber petit à petit depuis déjà quelques années. Et là, on en a une confirmation très claire par le ministère. Donc, s'il n'y a pas d'argent dans le ministère, il n'y aura pas de ruissellement. Hein, c'est pas compliqué. S'il y a une baisse de 20%, minimum, il y aura une baisse de 20% dans les subventions. C'est mécanique. Toutes les collectivités territoriales, je peux parler de la ville de Paris qui nous a toujours aidés, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, elle est aussi en difficulté. Elle est en difficulté du fait d'un désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités. Et donc, ça ne ruisselle plus de la même manière non plus, même si Paris est plutôt une ville riche. Donc, tout ça est à prendre en compte. Donc, quand ça baisse, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les cotisations. Donc là, on va défavoriser certains pratiquants qui ne pourront plus venir. Donc, vous voyez, il va bien falloir aller chercher de l'argent ailleurs.
Alors, par contre, vous risquez d'avoir quand même un afflux de pratiquants.
Ah bah,
ça, c'est un avantage, c'est de l'argent qui rentre en plus.
Des moments comme la parenthèse enchantée, ça compte dans les clubs. Hein. Vous savez, le tennis de table, on a, je crois qu'il y a 3500 clubs en France.
Oui.
Ils sont quasiment tous archi pleins. Quoi.
Ah oui.
Il y a des collègues qui me disaient qu'on était obligés de dédoubler les heures pour que des
petits... Alors le problème, c'est qu'il y a peut-être des clubs qui n'ont peut-être plus les moyens de les accueillir, les infrastructures suffisantes pour les accueillir, y compris dans le sport handicap.
Ah bah là, c'est encore un autre sujet, le sport handicap. Hein.
Oui.
Là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose parce que là, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite des installations spécifiques par moment, mais pas partout, pas pour tous les sports qui sont en e-sport. Mais ça nécessite au moins des accès dans les installations qui pourraient accueillir dans une pratique du handisport, parce qu'on n'a pas à changer les lignes, on n'a rien à changer, on peut en faire. Seulement, si on ne peut pas y aller en fauteuil, c'est pas possible.
C'est ce
on
ne
pourra
disais,
pas le faire. Vous voyez ? Donc, il y a l'accès.
L'accès.
Il y a certaines installations spécifiques, c'est vrai, mais il y a l'accès. Et il y a la formation. Parce que si on veut que ça se développe et qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent y pratiquer du handisport, il va falloir qu'il y ait de plus en plus aussi d'encadrement en e-sport. Donc c'est pour ça que nous au comité olympique on a cherché à faire cette formation aussi.
Oui,
c'est pas simple, hein.
Non,
c'est
mais
pas
c'est simple. Sûr. Voilà. Virginie justement qui est impliquée dans le Téléthon, donc ce que vient de dire monsieur Laferrière.
Bah, c'est très important parce que nous, effectivement, le Téléthon, on s'appuie beaucoup sur les associations sportives pour organiser des événements au profit du Téléthon. Tout est lié. Le Téléthon, on dit, on met le muscle sain au service du muscle malade. Donc, si on n'a pas la possibilité à Paris de pouvoir pratiquer ces sports et de donner aux associations les infrastructures nécessaires pour pratiquer leurs activités, nous aussi, on est un maillon de la chaîne. Et au final, c'est une partie du Téléthon et de la collecte qui va être pénalisée.
Et Philippe, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous disiez, quand on sait que les pratiques qui s'installent dans l'enfance, en général, perdurent à l'âge adulte, on peut se poser la question quand même. De faire du sport. Il y a des études quand même qui montrent que les enfants qui font du sport déjà petits, même si après avec la vie d'adulte c'est encore différent, ils maintiennent quand même une pratique sportive à l'âge adulte. Donc si déjà on enlève des financements, donc moins de possibilités pour les enfants de pratiquer, quel va être l'état des futurs adultes et des enfants dans les générations à venir ?
Là, vous avez complètement raison.
Et donc ça, il faudrait peut-être que en haut, donc peut-être si jamais le président de la République nous écoute, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, qu'il réfléchisse à ça, parce que on veut une nation sportive, on veut forcément des gens en bonne santé, c'est aussi... toutes des économies à la sécurité sociale, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, si on ne réfléchit pas à tout le cercle vicieux ou alors vertueux, on se plante et voilà.
J'aime beaucoup ce que vous dites, madame, parce que vous avez raison entièrement, je pourrais même l'illustrer un petit peu, mais c'est vous dire que là, c'est les agendas qui ne sont pas les mêmes. L'agenda d'un président, c'est 5 ans.
Ouais, il peut faire ça pour nous, on l'a rencontré au salon de l'auto, on l'a interviewé même.
S'il a un peu de chance, ça va être 10 ans.
Ouais.
Et dans le changement sociétal qu'il faudrait arriver à faire pour pratiquer du sport aux enfants, bonnes conditions, etc.
Faut une génération, voire deux.
Presque le double, voire plus. Donc voilà, moi quand j'ai commencé à être prof dans le premier degré, c'est vieux, 77, on devait faire 5 heures d'éducation physique avec nos élèves.
Déjà
par semaine, 5 heures. On en est à 3 heures.
Ouais, déjà à l'époque,
donc on a déjà rabioté.
Ouais.
Est-ce que tous les enseignants arrivaient à faire 5 heures ? Je ne le crois pas. Mais ils devaient le faire. Aujourd'hui, ils doivent faire 3 heures. Est-ce que tous le font ? Je ne crois pas
parce
non plus.
En plus, il y avait cette image.
Et au collège, on en était à proposer dans le projet de M. Macron pour une nation sportive de rajouter 2 heures au collège. Ça a été supprimé parce que ça nécessite des moyens, etc.
À l'exception des zones d'éducation prioritaire.
Voilà.
Mais bon, c'est pareil. Moi, franchement, je me dis, oui, c'est bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on commence à faire des différences entre... c'est pas... Heureusement, il faut aussi dans ces zones-là que ce soit fait. Mais est-ce que si on commence à faire une différence entre les ZEP et les gens qui ne sont pas dans les ZEP, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'on réserve le sport, entre guillemets, c'est pas méchant ce que je vais dire, à juste une catégorie et on n'étend pas les choses. Enfin,
On pense que l'activité sportive dans les quartiers plus favorisés sont plus accessibles.
Oui, mais
voilà.
C'est pas forcément le cas. C'était dans ce sens-là que je voulais dire ça. Excusez-moi, je vais corriger précisément ce que je voulais dire. Mais ça veut dire que si tous les enfants ne peuvent pas pratiquer de sport, enfin, augmentation de l'activité sportive, quel va être le résultat à la fin ? Alors, c'est bien de le faire dans les ZEP et de le garder pour les ZEP, mais... quand même, quid de ce qui va se passer après, quoi.
Ah bah c'est vous savez, l'éducation c'est, au sens large du terme, au sens large, hein, pas, voilà, pas que l'éducation physique,
monde,
l'éducation au sens voilà. large du terme, c'est notre futur.
C'est ça.
C'est notre futur.
Oui, mais alors...
C'est notre futur qu'on verra peut-être pas nous, mais c'est notre futur. Sociétalement, c'est notre futur. Donc si on ne met pas les moyens pour notre futur, pour en faire un beau futur, ça risque d'être un futur difficile. Voilà, et on le voit bien. Bah, avec,
À l'époque, c'est vrai que le sport, c'était un petit peu ringard, quoi. Quand on parlait de sport, qu'on faisait un petit peu... On n'était pas pris au sérieux. Bah, si, on n'était pas pris au sérieux, il y a 20-30 ans. Un peu comme les journalistes hein, qui parlaient de sport dans les rédactions. Ils n'étaient pas pris au... Bon, ça a un petit peu changé, mais voilà. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, quand même. Hein.
Ouais, puis je vous dis...
C'était pas prioritaire.
On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire
c'est le gars qui bosse mal à l'école qui fait du sport, quoi. C'est un peu ça, quoi.
Oui, il y a une conscience maintenant qu'il faut se maintenir en bonne santé.
Voilà, ça a changé là-dessus.
Il y a plein de choses qui ont changé dans la tête de beaucoup de gens. Il faut manger moins de viande, il faut manger moins, il faut faire plus d'activités physiques. Alors
surtout
l'activité physique, c'est pas que le sport, ça fait partie, Mais c'est déjà pas mal d'avoir de l'activité physique. Enfin, il y a cette conscience-là qu'il n'y avait pas. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait plus d'activités physiques, il y avait moins d'écrans. Donc les gens bougeaient beaucoup plus, les petits bougeaient beaucoup plus, les moyens aussi,
on
les ados aussi,
on marchait un peu moins la voiture,
Quand les enfants avaient besoin de jouer, ils allaient dans la rue sans aucun problème, même à Paris, il n'y avait pas les craintes, et voilà. On est dans une autre société qui a changé, et il faut qu'on s'adapte.
Alors vous, vos actions au sein du CDOS, donc, on va quand même rappeler, vous êtes combien déjà dans votre association ?
Alors le comité olympique...
Parce qu'il y a des tas de petits comités, hein. On va rappeler, il y a le vélo, il y a le foot, il y a le rugby...
Je vous explique vite fait, le comité olympique de Paris, il est une déconcentration du comité national olympique.
Voilà.
Donc on l'a dans tous les départements de France, en fait. Ce sont des gens élus, donc qui représentent les sports qui les présentent, et ils sont élus. Donc voilà, on est 21 élus, à peu près une vingtaine d'élus. Et donc,
sur le comité de Paris.
Sur le comité de Paris, qui représente une vingtaine de sports.
Voilà.
Il y a des sports qui donc ne sont pas représentés en tant qu'élus. Mais nous sommes là pour représenter tous les sports. Par contre, une fois qu'on est élu, on a une mission sur ce thème-là. Et donc nous, à Paris, aider les clubs, les 3500 clubs, c'est lourd et compliqué. C'est une question de moyens. Nous, les subsides financières, on ne les tient pas de nos pratiquants. Nous, on n'adhère personne. Oui. On ne propose aucun sport. On est là pour fédérer le sport parisien, mais pas pour faire pratiquer. Oui. Donc, les seuls subsides, c'est quelques cotisations qui viennent des différents sports parisiens, mais ça représente peut-être 1 ou 2 % de notre budget, donc vous voyez que ce n'est pas ça. Tout le reste, ce sont des subventions. Donc, ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est complètement à la merci pour faire les actions en direction des clubs, en direction des bénévoles, en direction du sport parisien. On est complètement à la merci de ceux qui vont nous donner de l'argent pour le faire et qui vont nous faire confiance pour le faire.
Ouais. Et vous avez du partenariat avec les autres comités départementaux ?
Des relations, de partenariat.
Vous n'avez pas d'action commune ?
Non.
Non,
quelques actions de temps en temps, mais c'est rare. Ouais.
Et tout ça régi par le CROSIF, de la populaire Evelyne Thierry.
Oui, le
CROSIF.
Bien sûr, on salue tous Evelyne ici, évidemment. Non, le CROSIF, c'est la. L'entité régionale.
Il y a
les 8 départements qui sont en dessous en termes de déclinaison territoriale, mais on se voit une fois de temps en temps. Enfin, c'est. Voilà. On n'a pas de. Il n'y a pas de synergie pour faire des actions. On a une synergie de volonté, je pense, commune, mais pas dans les actions.
Alors vous, vos différentes actions, c'est quoi ? C'est la formation, on l'a dit.
Principalement la formation.
Les luttes aussi contre les différentes discriminations ?
Oui, aussi, bien sûr. Alors ça va aussi avec la formation, parce que ça s'apprend aussi. Ouais. La réduction des inégalités.
Oui.
Voilà,
on en parlait tout à l'heure avec les ZEP, notamment.
Ouais. Voilà, nous, on développe avec la ville de Paris un projet qui s'appelle Réduc Sport depuis maintenant quelques années, même pas mal d'années, qui donne, en fonction de la somme d'argent qui est distribuée par le comité olympique de manière égalitaire, à peu près 4000 bénéficiaires qui vont être aidés à hauteur de 50 euros.
Oui. Et qui
sur
décide de ça ? Comment ça se décide ?
Alors, ce n'est pas décidé, en fait, c'est une règle. C'est-à-dire que toutes les familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire peuvent prétendre à cette aide pour leur enfant.
D'accord.
Voilà. Mais on n'a que 4000 bons. Et il y a beaucoup plus que 4000 familles qui touchent l'allocation scolaire.
C'est un peu ça.
On essaye de répartir entre sport, on essaye de répartir entre géographiquement aussi, mais c'est difficile parce que on doit ouvrir la campagne pour l'attribution des bons début septembre, en gros. Mm-hmm. Et 15 jours, 3 semaines après, on n'a déjà quasiment plus, même pas quoi.
Oui. Est-ce que vous faites des tables rondes ou des dîners-débats, comme ça peut arriver certains comités ?
Des dîners-débats, non. Moi, des tables rondes, on les fait autour de petits déjeuners.
Voilà,
où on invite les acteurs du sport à réfléchir sur un thème.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça peut être la discrimination, ça peut être des choses très pragmatiques.
Le cyberharcèlement, on avait fait un petit
Une meilleure comptabilité dans l'association.
Oui, c'est important. Non, mais c'est important, parce que le bénévole, il est quand même très responsable.
Absolument.
Hein. Il peut aller en prison. Hein.
Ah bah oui.
Ah oui, non, mais...
Le président, le trésorier,
ouais, c'est... Ouais, ouais.
Et il me semble que vous faites aussi, vous me contredirez si ce n'est pas le cas, des actions dans les écoles pour promouvoir l'Olympisme,
absolument,
notamment avec des sportifs de niveau qui viennent.
Ouais.
Et beaucoup d'actions aussi autour d'autres thèmes. Et puis évidemment, il y a la journée scolaire olympique chaque année.
Ça, c'est toutes les actions alors, sur le terrain. Là, j'étais sur la formation. C'est bon, ça évidemment, les actions sur le terrain que nous faisons. Donc, il y a toute la sensibilisation à l'Olympisme où on va dans les collèges, dans les écoles. On part du film La couleur de la victoire.
Oui, c'est bien.
Qu'on regarde où on fait passer la moitié d'abord et on revient pour la deuxième moitié.
Et quelles sont
ensuite,
les réactions?
Il y a un débat
quelles
là-dessus.
Quelles sont les réactions?
Les réactions des enfants.
Ouais.
Après ce film-là?
Oui.
Beaucoup connaissent.
Oui. Déjà. C'est bien.
Les gens connaissent Jesse Owens, ils connaissent un peu l'histoire.
C'est important.
Ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas surpris, mais ouais, un peu surpris par le film, par l'ambiance aussi du film. Hein. Le racisme n'est pas mis en avant absolument, mais on le sent. On le sent tout le long.
Dire que c'est bon.
Et on en parle, c'est l'objet. Mmh. Hein. L'objet, c'est que ça sorte et qu'on en parle.
C'est intéressant de connaître le racisme.
Voilà, à chaque fois, on arrive à en parler. Mais on arrive quand même à dire que, je pense la vérité, c'est peut-être dans le sport où il y en a le moins. Quoi.
Le
sport où on respecte ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un verdict à un moment donné. Des fois, dans les sports jugés, c'est un petit peu différent. Oui. Mais dans les sports mesurés, généralement, on accepte la performance. Quoi.
Ah bien sûr, de toute façon, c'est le juge de paix. Hein.
Voilà.
Je suis assez d'accord avec vous. Et après, des fois, dans les sports jugés, parfois artistiques, esthétiques, des fois, il y a eu la couleur de la peau. Mais au-delà de ça, si je peux me permettre, il y a aussi la question du corps. Et qui n'est pas forcément, des fois, relié à la couleur de peau. Et donc, ce qui veut dire que, des fois, une athlète qui va avoir telle ou telle qualité athlétique va parfois être un peu moins avantagée qu'une autre athlète qui va avoir telle ou telle qualité athlétique, tel ou tel type de corps. Et parfois, c'est un peu plus ça que la couleur de la peau, si je peux me permettre de souligner ce que vous dites.
Oui.
Même si, par exemple, si on fait référence au patinage artistique que je connais bien, sur Gabon Ali, il y avait un peu tout ça. Mais elle était aussi défavorisée, entre guillemets, dans les notes par rapport à son côté très athlétique.
Ça, c'est un problème typique au patinage.
Gymnastique ou dans d'autres sports jugés, entre guillemets, il y a aussi cette question-là.
Après, je connais très, très bien le patinage aussi parce que j'étais président de la CBB Sport de glace pendant longtemps.
D'accord.
Ma fille a fait encore du patin. Elle a 30 ans, mais elle continue. Je connais très bien le patinage artistique, pardon. Mm-hmm. Donc, en fait, il a fait ses révolutions, ce sport.
Oui,
il a fait sa révolution.
Et il le fait de plus en plus.
Et je trouve qu'il est extrêmement dynamique dans son autocritique et sa manière de se remettre en cause, côté de plein d'autres sports qui ne le font
fallait,
pas.
Il fallait.
Alors qu'on le critique beaucoup et qu'on reste encore sur des vieux clichés,
alors que
la performance est au rendez-vous, alors qu'on se remet en question tout de même. Et ça, c'est important de le souligner pour nos auditeurs, parce que des fois, il reste sur une image assez ancienne de ce sport. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se passent. Je vous donne juste un exemple. Amber Glenn, 25 ans, qui fait le triple axel et qui tient tête à toutes ces petites japonaises, entre guillemets, c'est pas... mais qui sont très jeunes et qui forcément ont un potentiel différent en termes de capacité.
C'est surtout qu'elles ont un bassin plus étroit.
Exactement.
Et ça tourne plus vite.
Voilà. Et du coup, cette fille est incroyable. Et elle a du style, et elle a du charisme, et elle a de l'engagement. Et ça aussi, c'est important, parce que dans ce sport, ça représente quelque chose. Voilà. Amber Glenn, superbe, qui sera là.
Alors,
à la finale.
Vos actions pour 2025 ?
Alors, pour 2025, on n'a pas lancé grand-chose d'inhabituel, si ce n'est que dans 15 jours maintenant, dans une semaine ou 15 jours, on a la soirée des trophées parisiens, ouais. comme tous les ans. Donc là, on récompense les meilleurs sportifs, les meilleures équipes.
Ouais, c'est un temps important. Comment ça se fait ces choix ? Qui est-ce qui vote ? Qui est-ce
On propose à tous les clubs parisiens de nous faire remonter.
Ouais. Un petit peu comme les fair play.
Ouais, de nous faire remonter les meilleures performances quand c'est une récompense de performance. Mm-hmm. Mais on a 9 trophées.
D'accord.
Les 9 trophées sont... Un trophée masculin, un trophée féminin. Donc, il y a une parité dans la récompense. Donc, il y a le meilleur sportif, mais il y a la meilleure sportive. Il y a la meilleure équipe, mais féminine. La meilleure équipe masculine ou mixte, etc. Il y a le meilleur arbitre, la meilleure arbitre, la meilleure jeune arbitre, voilà.
Ah, c'est bien,
etc., etc. Et donc, c'est une soirée qui est pour mettre à l'honneur les acteurs du sport parisien. Qui sont pas souvent mis à l'honneur à part les grands sportifs parce que dans notre histoire de remise de cérémonie des trophées parisiens, on a des grands noms, hein. On a Teddy Riner, on a Laura Flessel, on a Brice Guillard,
j'en passe, c'est les
meilleurs.
Ils ont tous donc eux, non mais ils sont,
on leur a remis le trophée du meilleur sportif parisien, hein. Donc mais il y a aussi des noms moins connus. Et des gens qui sont champions du monde mais dans un sport qui est pas très médiatique voire presque pas. Donc, des équipes qui ont fait des parcours incroyables. Et donc, on est là pour les mettre à l'honneur ce soir-là. On a des partenaires qui nous suivent pour qu'ils aient un petit cadeau quand même en repartant. On leur offre, nous, le trophée. Et généralement, on est accueilli dans une mairie d'arrondissement dont le maire se fait le plaisir.
Ça change tous les ans, quoi.
Oui, on essaye de changer pour tourner. On est parisien, mais on n'est pas que dans un arrondissement.
Et cette année, c'est où ?
Cette année, c'est dans la mairie du centre, Paris-Centre.
Paris-Centre.
Qui est l'ancienne mairie physique du 3e. Mais ça représente le centre.
D'accord, très bien. Allez, la pause musicale et ensuite, on va vous faire une surprise. On va voir quelqu'un donc, au téléphone qu'apparemment, vous connaissez en le suivant sur les réseaux sociaux.
Je ne le connais pas, j'ai
Allez,
pas ce plaisir.
La musique avant.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
Oh, Paris FM.
Alors, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe vis-à-vis des parents et de tout l'encadrement. Parce qu'on sait que c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui.
Par rapport à
Par rapport à des parents qui vont mettre leurs enfants au sport, pour les bénévoles, pour les éducateurs. Aujourd'hui, on tolère beaucoup moins de choses. On admet beaucoup moins de choses.
Dans ce sens-là. Ouais. Okay. C'est comme l'école, en fait.
Oui, c'est ça, c'est pareil.
C'est-à-dire que
les
profs qui ont été profs dans les années 80 ou 70 et qui sont à la retraite maintenant, ils vous diront leur relation avec les parents de l'époque était bien, mais comme maintenant. Mais sauf que ce n'était pas la même. Là, aujourd'hui, on est face à des parents plus inquiets, plus proches ou des fois moins présents. Enfin, voilà, on a un petit peu le tout. Les enfants ont changé. Mmh. Les enfants ont énormément changé.
Ah oui, bien sûr.
Donc voilà, les parents aussi.
Mmh. Allez, c'est clair. Je vous avais promis la surprise, il est avec nous, c'est Jérémy Nicolin que je salue. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Oui, bonjour. Alors Jérémy, je m'adresse à un ancien champion d'athlétisme qui a décidé de faire du saut de falaise. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi avoir changé comme ça ?
Mais en fait, c'est un sport que je pratique depuis tout petit. J'ai grandi dans le Jura, à Saint-Claude.
Oui.
Dans un petit village au-dessus de Saint-Claude, et il y a un canyon à 10 minutes à pied de chez moi, et mon père nous a emmené dedans. Moi, j'avais 7 ans, et j'ai tout de suite adoré ce sport, en fait. Et du coup, en grandissant, j'ai aussi fait de l'athlète, parce que mes parents entraînaient l'athlète au club de Saint-Claude, et j'étais bon au lancer de javelot, notamment. Je fais 5 fois champion de France.
Oui.
Et à un moment, j'ai arrêté ma carrière de lancer de javelot, et j'ai repris tous les sports extrêmes que j'adorais, dont le saut de falaise que je pratique, en fait, depuis tout petit, tout simplement.
D'accord. Alors, c'est un sport maintenant dont vous arrivez à vivre à travers vos différents réseaux sociaux. Et ce qui est remarquable, c'est que notre invité de ce soir, il vous connaît, il vous suit sur vos réseaux sociaux.
Ah, c'est formidable.
Oui.
C'est qui l'invité de ce soir?
C'est le président du comité départemental olympique et sportif de Paris. Vous voyez, il vous suit. Même vous, l'homme du jour.
Ah ouais, c'est
génial.
Il faut que tout le monde le suive. Allez sur Instagram et regardez ce champion là qui c'est énorme ce qu'il fait, c'est énorme.
Oui, Jérémy.
Merci beaucoup.
Merci.
Félicitations.
Beaucoup.
Ça fait rêver en plus.
Oui, oui. Donc vous êtes un influenceur, vous en vivez maintenant de ça. Hein.
Ouais, exactement, c'est ça. Donc en fait, j'ai publié mes vidéos en cliff jump depuis 2021. Et chaque année, ça a plu à beaucoup de monde et il y a de plus en plus de monde qui se sont abonnés à mon compte Instagram notamment et sur YouTube. Et du coup, là, j'ai plus de 500 000 abonnés sur Instagram et ça a attiré des marques qui me sponsorisent.
Oui.
Et du coup, à la mi-année cette année, j'ai pu passer le pas et me lancer complètement là-dedans pour vivre que de ça. Donc, via les sponsors et via les revenus, via la monétisation sur les réseaux sociaux aussi comme YouTube.
Oui, alors je sais que beaucoup autour de la table veulent aussi tenter du saut de la falaise, mais c'est à consommer avec modération au début. Hein. Il faut quand même prendre ses précautions, il faut bien se préparer.
Oui, exactement, hein, tous les sports extrêmes, que ce soit le ski, le sport automobile ou le cliff jump, c'est dangereux.
Oui.
Donc à chaque fois, il y a des choses à respecter. Donc nous, c'est simple, hein, c'est checker le fond. Donc, il faut qu'il y ait assez de fond. On se dit qu'à 6 mètres, on peut sauter de n'importe quelle hauteur avec 6 mètres de fond.
Oui.
Faut mesurer la falaise, la hauteur de la falaise, pour ne pas aller sauter trop rapidement.
Mm-hmm.
Parce qu'un saut à 30 mètres, c'est 87 km/h à l'impact.
Ah, oui, oui.
Donc, si on n'est pas bien préparé, on finit en pantin sous l'eau, on peut se tordre le genou, se faire mal au dos, etc. Ça peut être très, très grave, hein. Ça peut être de la tétraplégie, comme mourir hein, carrément.
Mm-hmm.
Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est aller step by step. Il faut démarrer à une hauteur basse et monter petit à petit en apprenant à connaître son corps, à s'équilibrer en l'air et aussi, surtout, à pouvoir encaisser l'impact. Et c'est pareil pour les figures. On les entraîne petit à petit pour les monter.
Et ça prend combien de temps?
Ça dépend des personnes. Ouais. Hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins rapides dans l'apprentissage. Donc, on peut très bien arriver à sauter à plus de 20 mètres en un an, hein, comme mettre 10 ans à y arriver. Ça dépend les personnes, ça dépend les efforts qu'on met dedans, la force qu'on a. Voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en compte. Pour ça, il n'y a pas de règles, c'est propre à chacun.
Oui, donc ça veut dire qu'il faut aller en repérage des mois et des mois auparavant. Comment se fait le choix des sites?
Le choix des, pardon?
Des sites, des endroits.
Eh ben, c'est nous en Cliff Jump, ce qu'on aime, ouais. c'est voyager. C'est une manière de voyager et on essaye tout le temps, pardon, de découvrir des nouveaux spots qui sont beaux en nature, des cascades.
Ouais, d'accord.
Et c'est important aussi, du coup, de les préserver. Donc, on va regarder sur les maps, sur les réseaux sociaux, oui. Dans des vidéos, des endroits qu'on trouve beaux et puis avec notre œil, on va se dire tiens, ici, ça saute peut-être et ensuite, on va se déplacer ou se renseigner et voir s'il y a assez de fond, s'il n'y a pas trop de gaps, si la hauteur de la falaise est bonne, etc. Et il y a des échecs comme des réussites.
Oui, alors on va rappeler quand même que c'est un sport très, très dangereux. Il faut apprendre à maîtriser sa peur quand même.
Alors bien sûr, c'est ça ouais. aussi qui est intéressant avec le cliff jump. C'est une bonne manière de prendre confiance en soi. Et oui. prendre confiance en soi, c'est comme dans tout, hein, c'est en travaillant et en y allant étape par étape. Donc on va commencer au début à 2-3 mètres. Et on va monter petit à petit et en fait, on va se rendre compte qu'on y arrive, qu'on sait faire, qu'on arrive à s'équilibrer, qu'on arrive à supporter l'impact à l'entrée à l'eau. Et du coup, on est pragmatique et on sait qu'on est capable de faire les choses. Ça nous permet de monter petit à petit et d'avoir cette confiance. Et en fait, on a toujours peur avant un saut. Oui. On sait qu'il y a quand même des risques, mm-hmm. même si on est très entraîné. Mm-hmm. Et en fait, c'est une peur, pas qui nous paralyse, mais qui fait qu'on est concentré. Et ça vient parce qu'on s'est bien préparé.
Oui, donc ça prend des mois et puis des mois. Est-ce qu'il faut faire attention aussi à son alimentation ? Est-ce qu'une bonne hygiène de vie, le poids, par exemple, peut être un facteur important ?
Une personne plus lourde ou plus légère qu'une autre, tout le monde va tomber à la même vitesse.
Oui.
Ça, le poids, ça ne va pas changer la vitesse d'impact. Après, c'est sûr qu'arriver à des hauteurs comme 30, 40 mètres et même... 47 mètres, mon plus haut saut récemment, oui. c'est bien d'avoir une bonne forme physique et d'avoir une hygiène de vie qui est bonne, qui est comme un athlète de haut niveau, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on limite les risques en étant au top de notre forme.
Oui,
c'est important. Ouais.
Bien sûr. Et puis, on va rappeler donc que vous avez sauté plus de 40 mètres. Maintenant, l'objectif, c'est quoi ?
Et où ? Là, j'en suis à 47 mètres.
Ouais, 47 mètres.
L'idée, c'est de continuer à monter petit à petit.
Oui.
Et le point de mire serait 60 mètres, mais pour le moment, on n'y est pas. Il faut déjà valider des étapes avant, 50, 53, 56. Voilà, vraiment étape par étape. Mm-hmm. Et peut-être que j'irai jusqu'au 60. Peut-être que je m'arrêterai avant parce que je verrai que... l'impact est trop lourd à supporter, ça on le verra, c'est en faisant qu'on saura, mais en tout cas je me prépare comme il faut pour pouvoir rêver de ces hauteurs-là.
Oui, parce qu'on va rentrer, on va rappeler à quelle vitesse vous rentrez dans l'eau.
Ouais, à 30 mètres c'est 87 km heure, à 40 mètres c'est 100 km heure, à 47 mètres c'est 109.3, et à 60 mètres, si j'y arrive un jour, c'est 124 km heure.
Et il y a des endroits qui vous font rêver, vous avez déjà coché, vous avez dit il faut que j'y arrive, quoi qu'il arrive.
Ouais, il y a notamment en Amérique du Sud, j'ai repéré pas mal de spots, des cascades. Moi j'adore les cascades, je trouve ça vraiment beau, j'adore la nature, les arbres, la jungle qu'il y a autour. Mmh. Et il y a pas mal de spots en Amérique du Sud, Brésil, Chili, les cénotes au Mexique qui me donnent envie.
Ouais.
Après, il y a aussi beaucoup de spots en France, des cascades qui n'ont pas encore été sautées, que je garderai secret pour le moment.
Ah oui, parce qu'on voit, ouais.
Et à La Réunion, là, on a fait un voyage récemment et ça nous a donné aussi envie d'y retourner pour explorer les canyons un peu plus profondément pour trouver de nouveaux spots aussi.
Ouais. Et donc, il faut aussi étudier le choc thermique quand on rentre dans l'eau aussi.
Ça, après, c'est propre à chacun, encore une fois.
Hein, quand même.
Moi, personnellement, depuis tout petit, j'ai pu expérimenter ça, passer de sec dehors à mouillé dans l'eau sans problème, le choc thermique. Après, tu t'y prépares aussi mentalement, mais en tout cas, moi, physiologiquement, je ne suis pas sujet à faire une hydrocution. Donc, ça ne m'inquiète pas. Mais ça, c'est encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, mais oui, il y a toujours un travail mental. S'il fait chaud dehors et que l'eau est super froide, il faut être prêt à entrer dans l'eau froide, effectivement.
Et quand vous sautez seul ou alors vous avez des supporters qui viennent donc vous encourager, même dans le silence ?
En fait, c'est un sport qu'on pratique tout le temps en groupe. Nous, on a une bonne communauté en France qui avait été créée par un pote qui s'appelle Enzo Benezek, qui a regroupé un peu tous les cliff jumpers en faisant un appel sur les réseaux sociaux. Et en fait, on essaye de jamais sauter seul pour au moins avoir une safety dans l'eau, donc une personne qui fait la sécurité. Parce que imaginons qu'on fait une figure et que pour des raisons X ou Y, ça se passe mal et on arrive à plat d'eau ou sur le côté et qu'on prend un KO, et ben, la personne en safety, elle va pouvoir nous sortir de l'eau et ça nous évite de mourir noyé tout simplement et bêtement, quoi. Donc ça, c'est hyper important d'avoir tout le temps une sécurité dans l'eau au cas où. Et puis ensuite, c'est sympa parce qu'on est tout le temps en groupe, on s'encourage, on se donne des conseils, on se motive et puis on fête les succès ensemble, en fait.
Oui, puis il faut bien vous prendre dans vos shows quand même. Il faut bien que quelqu'un prenne vos vidéos, quoi, pendant que vous sautez.
Ouais, aussi, on filme, hein, ouais, exactement. Bah oui. Et nous, là, on est plusieurs à devenir un peu experts dans ce domaine-là, hein, et à s'équiper de plus en plus pour poster des vidéos de plus en plus quali et en envoyer plein les yeux pour les gens qui nous regardent, quoi, qui regardent nos vidéos.
Oui, dont le président du comité départemental de Paris. Donc, vous voyez, il vous suit.
Bien,
donc, vous voyez, c'est le... Ouais. Bon, vos sponsors, vous avez naturellement des sponsors, hein, régulièrement qui vous permettent de vivre et peut-être même de payer vos différents déplacements.
Oui, bien sûr. Ben... En sponsor, j'ai notamment Insta360, c'est une marque de caméras d'action.
Oui, bah oui.
Donc en fait, c'est les caméras que j'utilise. Moi, je la mets notamment dans la bouche. Et en fait, ça permet d'avoir une vue à la première personne.
Ah d'accord.
Donc, c'est comme si la personne sautait était mes yeux, en fait. Et donc, je fais vivre le saut aux gens. J'en ai une autre que je lance en l'air à côté de moi et qui filme à 360 degrés, qui permet aux gens d'avoir l'effet comme s'ils sautaient à côté de moi. Donc en fait, j'aime bien les embarquer avec moi dans mes vidéos. Mmh. Et j'ai aussi The Met Sayer, une marque de lunettes de soleil pour qui j'étais chef de produit avant d'arrêter mon travail à la mi-année. Ben, ils continuent de m'accompagner en me sponsorisant. Mmh. Et puis j'ai Snow Leader aussi, c'est un revendeur d'articles de sport outdoor que j'utilise dans tous mes voyages et dans tous mes sports extrêmes que je pratique, quoi.
Très bien, ben Jean-Mi, merci en tout cas pour nous avoir parlé de ces sauts de falaise. Hein. En tout cas, ça fait rêver autour de la table. Un dernier petit mot du président du comité.
Félicitations déjà, voilà. Parce que quelle énergie, je dirais.
Oui.
Donc,
merci beaucoup.
Et en fait, les vidéos que j'ai pu voir de toi ne donnent pas forcément envie d'y aller, si je ne veux pas dire ça, mais elles donnent la pêche.
Et ben, c'est un peu le but, c'est de faire rêver les gens et de leur donner le sourire et à certains peut-être de leur donner envie de passer le pas, d'avoir confiance en eux et de tester des choses step by step.
Oui, alors justement, pour finir, est-ce que certains vous demandent des conseils et éventuellement vous demandent de les accompagner sur leur premier saut?
Alors on me demande pas mal de conseils et moi j'essaye de répondre à tous les messages dans ce sens-là. En donnant les bons conseils step by step, la sécurité aussi.
Oui, surtout ça, c'est important. Hein.
Et ensuite, je leur dis de suivre mes stories, mes vidéos, et comme ça, ils peuvent me rejoindre sur les spots où je vais sauter. Et si ça tombe dans leur région, ils peuvent nous rejoindre. Hein, on est toujours content de partager ça avec d'autres personnes.
Très bien, merci en tout cas, puis continuez à nous donner de vos nouvelles, et puis merci en tout cas d'avoir donc accepté d'intervenir sur notre radio à Montparis FM. Merci en tout cas.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci. Bonjour, je vais m'abonner.
À très bientôt, et puis peut-être que Vanessa ou bien Alexandre vont aussi vouloir un petit peu sauter, faire leur baptême.
En attendant, on va le suivre sur Instagram. Il y aura des nouveaux abonnés après l'émission. Voilà.
Génial. Rendez-vous quand il fait un peu plus chaud, alors.
Voilà, c'est ça. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. Allez, c'est sympa en tout cas, c'est assez complètement original quand même. Hein. Vous venez et puis voilà, c'est bien. Allez, on va passer maintenant donc au Téléthon. Je ne sais pas si on a sauté de la falaise pour le Téléthon. C'est encore jamais peut-être arrivé, peut-être en province, qui sait. Hein.
Peut-être en province, mais en tout cas à Paris, on a plutôt grimpé les marches de Montmartre.
Alors justement, ça s'est passé comment, Virginie?
Ça s'est très bien passé. Alors déjà grâce à une météo très favorable par rapport à l'an dernier où il pleuvait des trompes d'eau. Cette année, on a eu deux, trois jours de très, très beau temps, un beau soleil. Donc, pour les activités en plein air, bien sûr, ça a un impact. Et je parlais effectivement du défi trail que s'étaient lancés Florent et Stéphane, de l'association Team Trail, qu'ils ont pu réaliser sereinement leur montée des escaliers de Montmartre. Je crois que Stéphane en a fait plus de 300.
Ah, le cardio
Oui, oui, non, non, mais c'est des. La plupart de leurs participants avaient fait la diagonale du fou, donc voilà, ouais, ça vous donne un peu le niveau. Mm-hmm. Et voilà, grâce à une météo favorable, on a pu avoir des animations qui se sont déroulées sous les meilleurs auspices. Et puis, nous, on a constaté effectivement sur le terrain que nos organisateurs étaient très, très heureux du déroulement de leur animation.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a battu les records et sur le plan sportif et sur le plan financier.
Alors, sur le plan financier,
sur Paris et puis sur Montmartre, quoi, sur le défi.
Alors, sur le défi, oui, parce que c'était une première animation. Donc, là, effectivement, c'est.
Oui, là.
Et sur l'animation de Montmartre, effectivement, ils ont augmenté leur collecte par rapport à l'an dernier.
D'accord.
Donc, là, ils sont très, très contents. Sur la collecte de Paris, je n'ai pas encore tous les résultats, mais globalement, on s'achemine vers un résultat similaire à celui de l'an dernier.
Oui.
Sur la collecte nationale, j'ai cru comprendre qu'on était très, 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 très légèrement en baisse
par rapport à
l'an dernier.
Il y a eu presque 80 millions de promesses de dons.
Oui.
Et l'année dernière, officiellement, fin mars, parce qu'on dit, on va rappeler qu'il y a des manifestations Téléthon avant et puis après, la fin novembre, et puis qu'on peut encore donner et qu'on arrête définitivement les comptes, je crois, au mois de mars, il y a eu plus de 92 millions de dons collectés pour le Téléthon. Donc, logiquement, on devrait être à peu près au même...
Logiquement, oui,
parce qu'en fait, on se
rend compte que les promesses de dons, quand les gens les reçoivent, en général, ils donnent plus.
Oui, oui, oui.
Donc ça, c'est très important. On n'a pas encore le résultat de toutes les animations sur le terrain, puisque il y a des animations. Le Téléthon, ce n'est pas que le week-end du Téléthon. Ouais. Il y a des animations qui, nous, là, voilà, on a encore visité des animations aujourd'hui, parce qu'il y a des clubs, il y a des écoles qui préfèrent faire le Téléthon au moment, au moment plus opportun pour
eux. Oui, on en parlait il y a 15 jours, on peut le faire avant, on peut le faire après.
Toute l'année, moi j'ai encore des interventions prévues même jusqu'au 10 décembre. Je crois qu'il y a des animations encore en janvier. Mmh. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on arrête les comptes le 15 février. On a jusqu'au 15 février pour remonter effectivement les remontées de fonds des animations. Et après, les comptes sont arrêtés fin février.
Ouais,
et le résultat final, effectivement,
c'est fin mars,
début avril. La primeur revenant bien sûr à France Télévisions.
Oui, donc on sera à peu près, je pense, dans les mêmes chiffres. Ce qui est plutôt encourageant, vu la conjoncture, on parlait des réductions un petit peu d'argent partout, c'est plutôt intéressant, quoi.
Oui, c'est plutôt encourageant. On se rend compte que malgré la conjoncture, les gens restent attachés au Téléthon. Et puis en plus, cette année, on avait des victoires absolument incroyables.
Oui.
À annoncer, donc on se rend compte qu'effectivement les dons, les gens se rendent compte que derrière leurs dons, il y a des essais cliniques qui aboutissent, qui sont très encourageants. Je pense à celui du petit Sacha qui a bénéficié d'une injection de thérapie génique il y a 2 ans et qui aujourd'hui, c'est une maladie qui fait se dégrader progressivement les muscles. Sacha aujourd'hui, alors qu'il aurait peut-être dû être dans un fauteuil, aujourd'hui il court dans l'escalier. Donc on fonde beaucoup d'espoir sur cet essai. On se rend compte que le Téléthon, effectivement, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles aujourd'hui on a des thérapies. Donc ça, c'est très très important et c'est pour ça que les gens aussi continuent à donner au Téléthon.
Oui, bien sûr. Et le sport, donc on en parle dans cette émission de sport, mais le sport, c'est un petit peu le moteur, leader de ce week-end de Téléthon. Hein.
Bien sûr,
défis, donc fatalement.
Bien sûr, c'est des défis sportifs, c'est beaucoup d'associations sportives. C'est très bien que monsieur du comité olympique soit présent ce soir, mais effectivement, les associations sportives sont très très importantes pour le Téléthon, parce que on se rend compte qu'effectivement, les défis sportifs, ça plaît, c'est intergénérationnel, ça fédère, et puis c'est ce qu'on attend d'une animation du Téléthon, c'est que on se regroupe autour d'une même cause et qu'on puisse se dépasser et puis prendre du plaisir aussi.
Oui, monsieur Le Ferrière, c'est vrai que souvent, le monde du sport est intégré à travers vos associations sur le Téléthon.
Oui, depuis le début.
Oui.
Depuis la première édition. C'est normal. Hein. Je crois que le point de départ, c'est la myopathie. Hein.
Tout à fait. Les maladies neuromusculaires.
Voilà, et même s'il y a d'autres maladies que la myopathie, mais ça part de là.
Bien sûr.
Et la myopathie, c'est une dégénération des muscles. C'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Les myopathies, ce sont toutes les maladies des muscles.
Et donc, à partir de là, le sportif, il a tout à donner pour ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est naturel. C'est naturel. Oui. Et donc, il y a l'action sportive, elle se met en route toute seule. Quoi.
Oui,
et les idées de défis, les idées de records, elles viennent toutes seules. Parce que on est en symbiose un petit peu avec ça.
Et puis aussi, on travaille avec des sportifs. Je pense à l'Institut de myologie qui est à la Salpêtrière. Les sportifs sont très importants parce qu'effectivement, on étudie le muscle sous toutes ses formes, donc le muscle malade, le muscle sain, le muscle vieillissant, mais bien sûr aussi le muscle sportif, parce que c'est ça aussi qui aide aussi à trouver des traitements.
Ouais, on a tous des muscles et en fait, c'est un organe qu'il faut entretenir. Le jour où on ne l'entretient pas, il s'atrophie tout seul, il n'y a même pas besoin de myopathie, c'est réglé. Donc c'est bien plus grave quand il y a une maladie, évidemment, comme la myopathie, bien sûr. Hein.
Les muscles, on les sollicite en permanence.
Voilà, il faut les solliciter tout le temps.
Ne serait-ce que pour cligner d'un œil, il y a une action dont on ne se rend absolument plus compte. Bah, c'est pas moins d'une dizaine de muscles qu'on sollicite à chaque clignement.
Mais le muscle, quand on ne l'utilise pas, il est un peu feignant, il se repose tout seul. Et donc, ce n'est pas bon.
Alors, comme on était en année...
Il faut marcher, il faut faire du sport.
Bien sûr. Comme on était en année olympique et puis paralympique, il y a des grands champions qui se sont investis. J'ai vu une image avec notre ami Dupont.
Oui, bien sûr. Oui, Antoine Dupont qui s'est mobilisé. Alors, j'ai pas. Alors, moi, si
oui, il est venu. Bah oui, bien sûr, vous êtes sur le terrain, vous l'avez pas vu.
On est sur le terrain, donc
il est venu porter un beau maillot.
Bien sûr.
Dédicacé donc à un jeune. Et je sais que beaucoup de sportives et sportifs de haut niveau ont profité de leur week-end pour aller effectivement rendre parce que la vie leur a donné ce que certains n'ont pas pu avoir, quoi.
Bien sûr, mais c'est tous les. Ce soit de haut niveau ou dans les associations, tous les sportifs se mobilisent chaque année et c'est vraiment très, très important pour nous.
Oui. Est-ce que la difficulté, c'est pas de se diversifier dans les différentes animations ?
Oh, la diversification, non, on n'a pas trop de difficultés à
se dire. Il faut se renouveler tous les ans, trouver une idée nouvelle, un concept.
Bien
nouveau.
Sûr, il faut.
Parce que monter les marches de Montmartre, ça va le faire pendant des années et des années, quoi.
Oui, mais on arrive à se renouveler. On a par exemple les crèches parisiennes qui participent cette année alors qu'elles ne participaient pas les années précédentes. Et elles ont d'ailleurs, je salue Aude et toute son équipe de la crèche Clément Mionnet qui ont participé à la rédaction d'un petit livre à destination des plus petits parce qu'effectivement, il faut faire prendre conscience dès le plus jeune âge que il faut aider les personnes qui ont des difficultés, qui ont des maladies. Il faut les intégrer dans la société. Donc plus jeunes, ils prennent conscience de la diversité et de la différence, et mieux c'est. Donc effectivement, on a des initiatives assez singulières à Paris qui fleurissent chaque année et on est content parce que à Paris, en fait, on a comme les associations sportives, effectivement, participent beaucoup, mais par exemple, dans les écoles, c'est très difficile. On n'a pas les infrastructures pour faire des activités sportives comme on peut le faire en province. Donc, on trouve effectivement à chaque fois des solutions pour créer des petits parcours sportifs sur des plus petits, des plus petits périmètres. Donc, on arrive à s'adapter à chaque fois pour créer des animations différentes chaque année.
36-37, donc ça reste encore valable pour cette semaine. Hein.
Après, ça reste encore valable
cette
semaine.
On donne sur le site internet.
Téléthon.fr toute l'année.
Oui, toute l'année. Très bien. Et on peut visiter le Généthon aussi, il faut le dire, à Évry.
On peut visiter Généthon à Évry, il y a des journées portes ouvertes. On peut visiter l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière pour les Parisiens. Et puis à Évry, il y a aussi ISTEM, l'Institut pour la thérapie cellulaire. Oui, les laboratoires se visitent, mais lors des journées portes ouvertes, parce qu'effectivement, ce sont des laboratoires avec des conditions de sécurité très importantes.
Le monde du sport, il est souvent dans des œuvres caritatives. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui.
Oui.
Vous, ça fait partie de vos actions aussi?
Alors, œuvre caritative, nous, on a participé au Téléthon quelques fois, alors on ne l'a pas fait. Caritatif, je ne sais pas si tout peut être dit caritatif.
Il y a premier de cordée, il y a tout ça.
Alors, ce n'est pas forcément porté par le comité olympique, on est partenaire de toutes les initiatives, par contre.
Oui.
Nous, on ne refuse aucune bonne idée, donc on y va et on accompagne.
Mm-hmm. Très bien. Alexandre, t'as dit un petit mot?
Franchement, le Téléthon, c'est quelque chose qui est important.
C'est une institution maintenant.
Ouais, c'est une institution. Mmh. Et ça fait plaisir, comme tu l'as dit, d'avoir des personnalités qui continuent de se mobiliser chaque année, qui incitent aux dons, qui incitent à la reconnaissance de toutes ces personnes qui participent au Téléthon. Donc moi, chaque année, je suis ravi d'entendre que le Téléthon continue de fonctionner. Après, c'est pas surprenant non plus qu'il y ait aussi une baisse de revenus parce que
c'est un film. Il y a eu un moment une chute brutale et c'est bien remonté
mais c'est pas surprenant quoi parce que on sait que la situation de pouvoir d'achat des Français ou même des sociétés est un peu plus compliquée actuellement
les sociétés défiscalisent c'est des réductions d'impôts
on continuera de suivre ça tous les ans, ça c'est sûr.
Mais en tant que particulier, il me semble que quand vous faites dans une association, vous pouvez les déduire de vos impôts dans une certaine mesure.
Oui, quand c'est là-dedans, c'est défiscalisable à hauteur de 66%.
Voilà, exactement. Donc c'est aussi une incitation pour certaines personnes qui auraient peut-être un frein.
Écoutez, très bien, merci. Donc, on va rappeler sur mon Paris Santé maintenant. Virginie.
Oui, sur mon Paris Santé, je commence effectivement une petite chronique de santé dans ces émissions, la prochaine enregistrée mercredi prochain.
D'accord. Et c'est pas vous qui allez dire le contraire. Le sport, c'est la santé. Hein. Ouais, c'est
évidemment.
Important.
Évidemment.
Hein, c'est important. Merci en tout cas. On va marquer la deuxième pause musicale. Ensuite, il va y avoir le point sport avec Alexandre, le point foot. Et puis, on continue naturellement aussi, monsieur Laferrière, avec vous jusqu'à la fin de cette émission. On y va. Naturellement, cette émission, vous n'oubliez pas, vous la réécouterez en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début de saison. Et puis, on peut même aller encore réécouter les émissions de la saison dernière. Il était content, Alexandre, parce que c'était une chanson qui faisait penser à l'Olympique de Marseille. En attendant, il va nous faire son journal des sports. Je l'ai dit, actu un petit peu moins dense que le week-end dernier. Hein. Mais actu quand même,
c'est ça le principal. Donc, et on commence justement ce journal des sports avec le biathlon.
Et oui, Philippe. les bons résultats français,
l'équipe de France qui décroche la première victoire de sa saison ce dimanche 1er décembre à Kontiolahti en Finlande. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Éric Perrault et Fabien Claude se sont imposés sur le relais homme de la Coupe du Monde au terme d'une prestation XXL, hein. C'est important de le souligner, franchement grosse prestation de la part de nos Français. Les Bleus devancent justement la Norvège et la Suède. En plus du biathlon, Perrine Lafont frappe fort.
Ah, je l'adore, cette fille.
Ah ouais. Oui, franchement.
Magnifique retour.
Ouais. Magnifique retour. Ouais. En Coupe du Monde de ski de Bosse, l'Ariégeoise s'impose avec classe sur la difficile piste finlandaise de Ruka lors de la première étape de la saison. Mmh. C'est sa 31e victoire en Coupe du Monde.
C'est bien.
Son 55e podium. Ouais. Donc vraiment rien à dire.
Elle avait eu un petit burn-out, elle va revenir là pour les Jeux, mais j'adore le pep de cette fille.
C'est ça qui est important de souligner, c'est qu'elle revient très bien.
Super.
C'est l'Australienne Jacara Anthony qui termine juste derrière elle. Et on termine cette page sport d'hiver avec Camille Rast qui prouve qu'elle est en très grande forme avec cette première victoire en Coupe du Monde lors du slalom de Killington.
Oui, en ski alpin.
Wendy Holdener et Anna Swen-Larsson se partagent la deuxième place. On passe en Formule 1 maintenant, Philippe. La nouvelle victoire de Max Verstappen qui termine sa saison en grande forme. Charles Leclerc et Oscar Piastri complètent le podium. Donc la semaine dernière, souvenez-vous, on avait annoncé la victoire de Max Verstappen au championnat du monde qui remportait donc son 4e Grand Prix d'affilée.
Mais il reste encore un Grand Prix, donc c'est pas joué. Un 4e championnat d'affilée.
C'est ça qui est intéressant.
Et pour les constructeurs, c'est pas joué.
Exactement.
Il reste encore un Grand Prix. Hein.
Exactement. Ouais. Dernière course la semaine prochaine à Abu Dhabi. Mmh. McLaren leader avec 640 points. Oui. Et Ferrari deuxième avec 619 points. Donc là, on va avoir un finish très, très, très intéressant. Mm-hmm. Un point rapide sur le Vendée Globe, où je vous rappelle le classement. Charlie Dalin toujours premier, suivi par Sébastien Simon et Johan Richomme. C'est la 22e journée. Et déjà 22e journée. Et les voiliers contournent actuellement le Cap d'Espérance.
De Bonne Espérance.
Mm-hmm. On passe au rugby. Maintenant, et la nouvelle défaite pour le Stade français, la 7e de la saison. Celle-ci sur le terrain de Bayonne, 21-13. Paris pour le Racing 92 qui perd face au Stade toulousain, 21-17 à domicile.
Ça avait été le derby la semaine dernière. Hein.
Absolument, remporté par le Stade français. Au classement, le Stade français n'est qu'à 1 point de la zone rouge. Le Racing 92 est 8e à 5 points de la 6e place. Le Stade toulousain est toujours leader avec 39 points, suivi par Bordeaux-Bègles 37 points et Clermont 32 points. En basket, là, ça va vous faire plaisir.
Paris, en tête de l'Euroleague.
Nouvelle victoire du Paris Basket en Euroleague jeudi contre le Virtus Bologna. 80-78. Les Parisiens sont premiers d'Euroleague à égalité de points avec Fenerbahçe. En Betclic Elite, on jouait la 10e journée ce week-end. Et encore une fois, les Parisiens ont gagné face au Portel 87-78. Nanterre qui perd contre Dijon 77-72. Donc au classement, Paris est 2e derrière Cholet, mais qui, je le rappelle, a un match en moins. Et les Nanterrois sont 13e. Mmh. En handball maintenant, l'Euro féminin a démarré la semaine dernière et nos Bleus ont remporté leurs deux premiers matchs, 35-22 contre la Pologne et 24-22 contre l'Espagne.
Ouais.
Justement, à 20h30
c'est bien.
Contre le Portugal, dernier match de poule.
Alors, je te coupe. Je vous vois réagir, vous aimez tous les sports, ça c'est bien.
Je vous ai vu sur le biathlon, sur le rugby, sur le foot, sur le Vendée.
Bah oui.
Alors moi, je suis un sportif qui adore le sport et qui adore le regarder. J'adore le pratiquer, regarder.
Bah comme nous quoi.
Et comme je suis handballeur au départ, comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a du handball là, les filles ou les garçons, peu importe, ça vibre fort.
Mais vous aimez tous les sports, hein.
Oui, bien sûr.
C'est ce que je leur dis, il faut aimer tous les sports.
Non, mais il faut aimer tous les sports. En plus, chaque sport. Qui doit être montré, parce que c'est ça, c'est le sport qu'on regarde, il déclenche des...
Tiens, je voulais dire, je vais en profiter à l'antenne, je voulais dire à Vanessa qu'il y a les championnats du monde de badminton à l'Adidas Arena au mois d'août.
Oui, ah bah non, on va y aller parce que moi, depuis que j'ai été aux Internationaux de France, je me suis passionnée pour ce sport.
Elle est devenue amoureuse de Frère Popov, voilà. Non mais c'est vrai, j'ai vu ça hier dans le calendrier.
On a quelques jeunes en badminton qui, même derrière les Frères Popov, on a des jeunes qui sont très prometteurs. Très prometteurs.
Une belle relève.
Allez.
Vous avez bien l'handball, donc vous supportez Paris.
Ah oui, aussi. Ouais.
Ah bah oui.
Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui continue d'asseoir sa domination avec cette belle victoire face au Cesson Rennes.
On les avait reçus.
Oui,
il y a très longtemps.
Les Parisiens sont premiers du classement avec 24 points devant Nantes, 22 points. Par contre, défaite de Créteil 35-27 contre Saint-Raphaël et défaite également d'Ivry face à Montpellier 39-23. Ivry, qui je le rappelle, n'a pas gagné un seul match depuis le début de la saison.
Fou quand même.
C'est fou, franchement. Comme mythique.
C'est un club mythique,
mais bon, là, ça sent très mauvais pour.
Mais même vous qui connaissez bien le hand, Créteil, c'était aussi un club historique.
Oui, Créteil, c'était.
Moins historique que Ivry.
C'était le frère de Bernard Tapie qui, à un moment, a dirigé le club.
Absolument. Et en fait, oui, mais moins historique que Ivry, pour reparler du S. Ivry, qui est un club qui date des années 50 ou 60, je ne sais plus, même peut-être plus vieux.
Pas très loin d'ici, d'ailleurs.
Complètement incroyable comme club.
On a eu la chance avec Vanessa d'être à la maison de la radio donc vendredi, jeudi toute la journée. Il y avait des différentes tables rondes hein, liées au thème de l'héritage. On a ramené tout plein d'interviews qu'on vous diffusera sur notre site à travers des interviews diverses. Et il y a eu notamment l'interview du président de la Fédé, fraîchement réélu, Philippe Bana.
Mmh,
voilà,
absolument.
Que vous devez connaître.
Ah, oui. Il était seul à remarquer dans sa liste, mais bon, il fait un super boulot du développement du hand à travers le monde, même parce qu'il a même beaucoup développé le hand vers l'Afrique, etc. Et puis les équipes de France réussissent, hein, donc la Fédé tourne super bien.
Mmh. Allez.
Ivry, club historique, mais Ivry est malheureusement, donc logiquement, dernier.
Parfois.
Créteil, par contre, 11e, revient bien. Mm-hmm. Mais ça reste très serré dans le bas du classement, puisqu'on a 5 clubs à 8 points. Créteil, Istres, Chambéry, Dunkerque et Nîmes.
Oui, et il y a le Tremblay en France, hein, qu'il ne faut pas oublier aussi.
Tremblay en France,
oui.
On termine, du coup, ce journal des sports avec le volet.
Et on termine bien, puisque
le Plessis Robinson a gagné son match du week-end 3-1 contre Cannes.
Ouais.
Et Paris a également gagné 3-2 contre Narbonne.
C'est bien.
Ça permet aux deux clubs franciliens qui sont derniers au classement de recoller avec Narbonne et Saint-Nazaire, tous deux à 10 points. Chez les femmes aussi, on termine bien. Victoire de Levallois-Paris 3-0 contre Chamalières. Le club francilien est troisième du classement avec 23 points, à seulement 3 points de Nantes premier.
Très bien. Bah, merci en tout cas pour ce point très complet. On va, je crois, vite fait enchaîner sur le patinage.
Oui,
avant d'avoir Stéphane pour le foot.
La finale du Grand Prix donc, qui aura lieu cette semaine à Grenoble.
Un forfait de taille.
Alors, un forfait taille d'Adam Siouimfa, puisqu'il est blessé à la cheville. Il avait déjà contracté au printemps une blessure à la cheville avec rupture partielle des ligaments croisés. Et là, à la Coupe de Chine, déjà, il est arrivé dans un sale état. Et il s'est refait une blessure là-dessus. Donc, il a plusieurs semaines d'arrêt. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Et l'essentiel, c'est qu'il revienne en forme pour la deuxième partie de saison. Avant tout, le rétablissement, c'est le plus essentiel. Il y aura Kevin Emoz qui représentera la France, le Grenoblois, justement. Et puis, le couple Loparé-Vabrisseau, ainsi que d'autres Français chez les juniors. Voilà, et je voulais aussi vous parler d'une expo qui il reste encore quelques jours pour aller la voir, Spot 24. Superbe expo sur les cultures urbaines et l'olympisme, qui est déjà là depuis plusieurs mois. Alors, vous pouvez... Il y a plusieurs choses à travers les cultures urbaines, des œuvres de street art, vous pouvez aussi retrouver les torches olympiques de Los Angeles 1984, de Tokyo 2020, des ballons siglés. Vous avez des expériences immersives dans un métro de New York, des œuvres d'art comme l'artiste Insane 51. Il y a vraiment des très belles choses à aller voir pour découvrir un peu les sports urbains comme le skateboard, comme il y a des vélos même d'Anthony Jean-Jean, du film E.T. carrément, de la séquence.
Ah oui,
voilà. Et non, il y a vraiment c'est vraiment une expo à aller voir, elle est gratuite.
Donc
allez-y, sans inquiet, Jacques Chirac, au pied de la Tour Eiffel.
Ouais. Oh, bah,
c'est très facile à trouver et je vous la recommande vraiment parce que c'est très, très sympathique et vous avez plein de choses à découvrir, donc allez-y.
Très bien.
Voilà. Et vous retrouverez un podcast de Léo Caillard sur notre site, un artiste sculpteur dans les podcasts de Mon Paris FM et bientôt un article justement sur cette exposition.
Très
voilà.
Bien. Ok. Stéphane, bonsoir.
Philippe.
Oui, bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stéphane.
Ouais.
Bonsoir à vous.
Ouais.
Déjà, je veux dire que je suis hyper séduit par cette exposition.
Ah bah c'est
très,
bien.
Très bien. Très bien vendu.
C'est bien.
Je vais y aller.
C'est bien,
non, voilà,
merci Stéphane. Allez, on va revenir en tout cas en attendant sur la cinquième journée de Ligue des Champions. Alors, c'est vrai qu'une seule victoire pour trois défaites, hein, Lille qui s'impose à Bologne 2-1. Par contre, défaite pour Monaco, battu en fin de match par Benfica 3-2. Défaite, bon là, j'allais dire tout à fait logique, de Brest à Barcelone 3-0. Et puis une nouvelle défaite un petit peu plus inquiétante pour le Paris Saint-Germain devant le Bayern de Munich 1-0. On va quand même rappeler donc aussi la victoire de Liverpool devant le Real Madrid 2-0. Ça veut dire que pour l'instant, eh bien Monaco, Brest et Lille avec 10 points sont entre la 6e et la 12e place. Donc ils doivent pouvoir se qualifier. Où figure aussi donc Arsenal. Par contre, c'est un petit peu plus difficile pour Paris Saint-Germain qui est 25e pour l'instant. Il y reste 3 matchs. Elle n'a plus trop le droit à l'erreur, hein, l'équipe du PSG, Stéphane.
Non, pas du tout, même quoi.
Ouais.
Elle doit gagner 2 de ses 3 matchs.
Oui.
Sûr. Pour avoir 10 points, je pense que c'est le minimum. Peut-être par rapport aux autres résultats, ça peut ne pas suffire, mais il y a de grandes chances que 10 points, ça passe. Donc, ça veut dire gagner au moins 2 de ces 3 matchs.
Oui.
Et notamment, on pense bien sûr au déplacement à Salzbourg le 10 décembre, puis
contre Stuttgart aussi. Stuttgart. Ouais, c'est quand même une fin de tableau un petit peu plus facile quand même.
Ouais, une fin de tableau un peu plus facile. Bon, Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut sur, notamment, quoi, sur la défaite à Munich, bien sûr. Mais c'est pas là que le PSG s'est mis dans l'embarras. Il s'est mis dans l'embarras, le PSG, par les deux matchs à domicile contre le PSV Eindhoven et puis l'Atlético Madrid, quoi. Il y a eu finalement un point pris sur deux matchs. Il aurait fallu avoir au minimum 4 points. C'est-à-dire une victoire contre le PSV et au moins un nul contre l'Atlético. Comme ça, t'avais 8 points et tu faisais de gagner un de tes 3 derniers matchs, quoi, de prendre 3 points, t'étais sûr de passer. Donc, ils auraient dû s'en sortir. C'est là que ça a beaucoup péché, quoi. Là, on perdra 1-0 au Bayern. Paris n'a pas été très bon, mais le Bayern a été quand même assez bon et c'est quand même une sacrée équipe. Donc, le Bayern Munich, c'est une sacrée équipe. Donc, c'est pas là que ça se perd avant tout, quoi.
Oui, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas un Bayern particulièrement impressionnant. Ce qui est quand même assez sidérant, c'est que c'est ce manque d'occasion qu'a eu le PSG, pratiquement, excepté sur une occasion. C'est tout ce qu'a eu le Paris Saint-Germain dans ce match.
Ouais, bah bien sûr, bah de toute façon, avant l'heure de jeu, je crois, ou à l'heure de jeu, ouais. Ils ont joué à 10, c'est un peu embêtant, où tu prends un but sur un corner. Alors, on va dire que je cherche toujours des excuses, je cherche pas d'excuses.
Non, non, non.
Disons que c'est, on a connu ça, Philippe, hein, les historiens du foot, on connaît ça, c'est un peu une année où tout va mal se passer, quoi. C'est-à-dire que quand tu mérites pas de gagner, tu perds, quoi, tu vois. Des fois, il y en a qui méritent pas de gagner, tu peux faire un match nul. Là, bah, t'as cette boulette encore du gardien qui te plombe un peu ton match. Et puis voilà. Donc, c'est sûr que là, c'est comme l'Atlético de Madrid. C'est pareil, l'Atlético de Madrid, ils ont combien de... Moi, je parle, c'est vrai que c'est passé, hein, l'actu, c'est plus le Bayern, mais pour moi, c'est l'actu toujours, l'Atlético, par rapport à la Ligue des Champions. Combien d'occasions ils ont dans le match, combien de tirs ils ont dans le match. Et puis finalement, c'est pas l'année. Et donc à la dernière, dans les arrêts de jeu, tu prends un contre improbable et puis tu perds le match, quoi. Donc c'est le seul truc qui dénote, c'est le but contre Gérone qu'on a inscrit, quoi. Ouf, qu'ils ont inscrit contre leur camp à la fin. Là, celui-là, il fait partie un peu de la chance, quoi. Ouais. Mais il reste, pour l'instant, il y a rien qui va, quoi.
Par contre, on est quand même agréablement surpris par Monaco, Brest et Lille. Hein, quand même un beau parcours de ces équipes-là qui peuvent même aller jouer les barrages.
Ouais, les barrages, ouais. Tu veux dire directement les huitièmes de finale. Ouais,
enfin, les huitièmes, il faut finir dans les huit premiers quand même. Hein. Non, mais il faut finir dans les huit premiers quand même. Après, il faut passer par le tour de barrage.
Monaco, hein. Moi, je pense que c'est tout à fait à la portée de Monaco. Oui. Même si c'est pareil. Quoi, non, je dis ça, en fait, mais regarde le calendrier. Le calendrier de Monaco, là...
Il y a Arsenal, je crois, bientôt. Il y a Arsenal qui vont jouer Monaco.
Ouais, et pas que, hein.
Oui.
Je ne me rappelle plus, là, de tête comme ça tout de suite, mais il y a 3 matchs très compliqués. Par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, tu ne sais pas, mais il y a 3 matchs qui sont très compliqués. Ouais. Là, je pense que les mieux placés, c'est Lille.
Lille. Beau parcours des Lillois.
Ils ont largement de quoi. Moi, je mettrais bien habillé sur Lille directement en 8e de finale. Ouais.
Hein. Sinon, les autres devront passer effectivement par le tour de barrage ensuite, qui emmène les équipes de la 8e à la 24e place. En Ligue Europa, comme au tour précédent, même score, mais cette fois-ci pour Lyon qui va gagner à Karabakh 4-1. À l'inverse, Nice est battu 4-1 par les Glasgow Rangers à Nice. Alors Lyon, c'est pareil, hein, c'est 7e avec 10 points. Lyon peut également finir dans les 8 premiers et se qualifier directement. Par contre, pour Nice, hein, 35e avec 2 points. Avant-dernière, les carottes sont cuites.
Ouais, les carottes sont cuites, mathématiquement non. Oui. Parce qu'effectivement, pareil, même Francaise, il parlait avant le match contre les Glasgow, il parlait même d'une possibilité de passer avec 9 points. Donc, c'est vrai que c'est toujours possible avec 9 points, mais c'est très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à gagner. Alors, ils ont Bodo Klimt notamment en dernier adversaire. Ils ont je crois qu'il y a le PSV, s'il n'y a pas le PSV Eindhoven, pas le PSV Eindhoven, le Feyenoord.
Oui.
Mais c'est des adversaires qui restent quand même un peu solides. C'est pas gagner, quoi. C'est pas du tout, quoi. Plus un adversaire, le nom imprononçable, là, suédois, qui, je crois, en plus, a gagné loin s'ils n'ont pas gagné leur dernier match. Non, mais moi, je pense que c'est cuit, surtout quand tu vois l'équipe. Ouais, je comprends pas. Moi, Nice, ça me fait penser un peu à la, à la Coupe d'Europe de la vieille époque. On fait tourner, on met les remplaçants, les stades sont à moitié vides, ce qui était le cas à l'Alliance Riviera là, pour les Glasgow. Et puis ça va pas. Par contre, Lyon,
oui, moi, Lyon, ça va bien.
Ça serait vraiment une grosse contre-performance si Lyon n'est pas dans le top 8.
Hein. Ah oui, ça va bien, Lyon. Hein. Il faut un bon parcours. Hein. Ah, ouais.
Ah, il faut pas un si beau parcours que ça, parce que mine de rien, ils devraient avoir quand même. Ils ont perdu chez eux à la dernière minute contre Besiktas et ils se sont fait égaliser. Je crois que c'est à Hoffenheim qui se font égaliser à la 96e minute après avoir marqué à la 93e. Donc il y a quand même des petits, mais bon, normalement, quand tu vois les adversaires qui déjà dans la poule de championnat, et puis en plus quand tu vois les adversaires que eux ils ont eu le problème qui peut tout dérégler, c'est Francfort. Oui. C'est une grosse équipe, quoi. C'est le deuxième de Bundesliga. Donc si Francfort vient gagner à Lyon, peut-être que ça peut mettre, là je parle de la place en huitième, hein, dans le top 8, hein. Ça peut les dérégler et tout, mais normalement, ils ont l'effectif, lui, il peut tourner. Pierre Sage, il a fait tourner en Azerbaïdjan. L'équipe, elle a quand même performé. Ouais.
Avec un grand Lacazette,
Ouais, voilà, ouais. Mmh. Puis, donc, et puis, Lacazette retrouvé, qui a été aussi très bon contre Nice. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je dirais, c'est plutôt... ça serait plutôt une petite déception s'ils n'étaient pas dans les 8. Ouais. En tout cas, pour ma part, quand je regarde les adversaires, les équipes qu'ils ont eu à rencontrer, à part Francfort, c'est vraiment quasiment la seule équipe, normalement, qui pouvait les inquiéter, quoi.
Allez, on en vient donc à la 13e journée du championnat de Ligue 1. Alors, c'est vrai qu'après le décevant nul du Paris Saint-Germain face à Nantes 1-1, on se dit, Paris va perdre un peu de points. Bah non, Paris, ils ont repris des points puisqu'ils ont bénéficié de la défaite de Monaco devant Marseille, donc 2-1, qui a clos cette 13e journée. Auparavant, donc, cette journée avait commencé par la victoire de Lens à Reims, 2-0. Rennes qui a enfin renoué avec le succès en cartonnant devant Saint-Etienne 5-0. Victoire de Brest devant Strasbourg 3-1. Lille qui partage le nul à Montpellier de partout. Nette victoire, on en parlait aussi de Lyon, donc nette victoire de Lyon devant Nice 4-1. Et puis Toulouse qui bat Auxerre 2-0. Et enfin un match important pour le maintien, eh bien Angers qui a battu le Havre 1-0 au Havre. Donc Paris finalement reprend un point de plus et Paris donc a 7 points d'avance sur Marseille et Monaco. Paris 33, deuxième Marseille 26 points mais plus 12 au goal average, troisième Monaco 26 points mais plus 10 au goal average, quatrième Lille 23, cinquième Lyon 22 et en bas de tableau c'est très serré, 12e Rennes avec 14 points, 13e Strasbourg, Angers, Saint-Etienne 13 points, 16e Le Havre 12 points, 17e Nantes 11 points et il n'y a que Montpellier qui est décroché 18e avec 8 points.
Ouais, c'est... pas comment on peut appeler ça, mais c'est le foot si on veut. Ça veut dire que le foot, c'est pas des mathématiques.
Ah non,
parce que regarde, Nantes fait un bon résultat, un bon match. Paris, non, a été nul. Mais oui. Nantes a fait un match sérieux, on va dire, au Parc. Ils prennent un point, ça peut être la joie et tout. Mais du coup, c'est cette journée-là où pour la première fois depuis le début de la saison, ils sont relégables, quoi. Au lendemain de la journée. Après, donc ce match nul du Paris Saint-Germain, ça va plus, machin et tout. Et le deuxième était à 6 points.
Finalement,
le deuxième, aujourd'hui, il est à 7 points. Donc c'est plein de choses qui sont comme ça assez paradoxales, quoi. Et puis qui montrent que effectivement le foot c'est pas des mathématiques, quoi.
C'est pour ça qu'on aime, Stéphane. C'est pour ça qu'on aime, heureusement.
Hein, ouais, tout à fait, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc ça va encore. Maintenant, c'est vrai qu'on va, on va avoir un peu une enflammade de côté de l'Olympique de Marseille. Je sais que Roberto De Zerbi a déjà dit « Moi, je ne suis pas venu pour terminer deuxième. Qui veut gagner les matchs ?» Tout bon, là, ils ont gagné. Faut être lucide, hein. Au pire, un match nul, c'était plus mérité, quoi. Quand on a regardé le match, quoi. C'est un peu une victoire un petit peu laborieuse de l'Olympique de Marseille.
Deuxième victoire seulement à domicile, hein. Ah ouais,
c'est... Comment ? Ouais.
Deuxième victoire seulement à domicile, hein. Ah ouais.
Ouais, après deux défaites de suite. mais un peu, je vais pas dire, j'aime pas dire ce mot, enfin, c'est pas le cas, c'est pas chanceux, parce que tu t'es pas chanceux, tu vas, mais bon, ils ont pas non plus été très 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 bons non plus, l'Olympique de Marseille, et puis bon, bah il y a ce penalty à 5 minutes de la fin, mais Monaco a, faut être deux pour jouer un match, et Monaco a pas su faire la différence plus tôt, et puis donc c'est mérité, quoi. En tout cas c'est tout à fait mérité, leur victoire est tout à fait méritée. Avec une super ambiance et tout, donc tant mieux. Peut-être que De Zerbi arrive à trouver un peu. Alors la mode aujourd'hui, c'est voilà, c'est, rien ne va plus au PSG dans le vestiaire, ceci, dans cela, mais l'OM carbure, ça va faire comme l'été dernier. Hein, on en parlait, on va voir combien de temps tout ça va durer. Quoi.
Très bien. Allez, il n'y avait pas de Ligue 2 et de Nationale pour cause de Coupe de France, 8e tour. On va quand même dire qu'il ne reste plus que deux clubs franciliens, Bobigny et Drancy, hein, qui accompagneront donc le Paris Saint-Germain en 32e de finale, puisque le Red Star a été battu 2-2 à Bobigny, mais battu 4-2 au tir au but. Dunkerque est allé gagner à Aubervilliers 2-0. Victoire de Valenciennes aussi, qui a battu Neuilly-sur-Marne 4-3. Versailles battu également 2-1 à l'Union Saint-Jean. Et Drancy, je l'ai dit, donc il est allé gagner chez les nordistes de Noyelles 3-0.
Drancy qui va recevoir le FC Nantes
C'est bien. Bravo, finale. Bravo.
Ça fera, le tirage au sort a eu lieu.
Ah bah super.
Avec un choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain.
Ah d'accord, ok. Bah, ça sera sûrement le match qui sera diffusé chez nos
on
amis.
On a aussi Bordeaux-Rennes, par exemple, dans le match.
D'accord, ok.
Et le Paris FC. Chaud. Et puis donc le Drancy reçoit le FC Nantes.
Non. Notre invité demandait le Paris FC, mais le Paris FC sont éliminés. Ils sont éliminés. Ils ont été éliminés au tir au but.
Ils ont perdu au tir au but contre Rouen,
c'est ça. Allez, on finit avec les féminines. Il n'y avait pas de championnat non plus pour cause d'équipe nationale. 2-1 pour l'équipe de France devant le Nigeria. Avant le gros choc, France-Espagne, donc mardi, tous ces matchs-là de préparation pour l'Euro 2025.
Ouais, voilà, tout à fait. Voilà, on voit quelques choix, des choses. Rien à dire de particulier. Maintenant, c'est on est dans les préparations d'une grande compétition. Donc, beaucoup de joueuses, là, et pas que là, là aussi, lors du précédent rendez-vous, beaucoup de joueuses qui passent, qui jouent. Je pense qu'il y a une espèce de brassage un peu qui est fait par le sélectionneur avant l'Euro. Alors, est-ce que ce sélectionneur complètement inconnu par rapport à ses prédécesseurs.
Ouais, c'était l'adjoint d'Hervé Renard, mais enfin bon, ouais.
Comment, ouais, voilà, exactement. Dona Dei, je crois,
oui,
son nom
ça,
exactement.
Ça,
je sais même pas son nom exact.
Ouais, ouais.
Et puis par rapport au précédent, est beaucoup moins connu, donc il travaille, donc peut-être que ça va enfin réussir à l'équipe de France qui va faire quelque chose à l'Euro, quoi. Donc pourquoi pas. Maintenant, personnellement, j'en doute un petit peu, mais bon, on va voir.
Réponse en juillet. Merci Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine.
De rien, merci Stéphane. Bonne soirée à toutes et à tous. Hein.
Merci.
À bonne soirée.
Voilà, salut. Merci Stéphane. Vous êtes supporter des équipes de parisiennes, toutes, le hand, le basket.
Ah,
le
bien
foot.
Sûr. Ah ouais. Si le président du comité olympique de Paris ne supporte pas les équipes parisiennes,
c'est pour ça qu'il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut le dire.
Non, bien sûr. C'est pour ça que je demandais des nouvelles du Paris FC. J'étais passé à côté de l'élimination.
Le Paris FC
pas.
Oui, a été éliminé. J'ai compris. Alors justement, il nous reste une minute, grand maximum. C'est bien qu'il y ait deux clubs parisiens.
Ah bah c'est bien, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé
là,
dans les années 80 je crois.
Ce serait bien,
alors on peut, ils peuvent se partager le Parc des Princes s'ils ont envie, mais ça va être difficile.
Non, le Parc des Princes, c'est le stade du Paris Saint-Germain.
Ben je sais bien, je vous fais une petite boutade, ils se partageront pas. Mais bon, par contre, oui, c'est bien pour Paris, vous savez, quand vous allez à Londres, il y a 6 clubs je crois qui sont en première ligue, vous allez à Madrid, il y en a 3 ou 4.
À Rome, il y en a 2 au moins.
On est une des rares pays où sa capitale n'a qu'un seul club, quoi. Donc ce serait pas anachronique du tout qu'il y ait deux ou trois clubs. Est-ce que c'est viable économiquement, là c'est autre chose, mais par contre ça, sportivement ça paraît complètement cohérent,
et c'est bien pour le Paris Basket aussi. Puis
le Paris Basket fait un parcours de
très belle
incroyable parcours en Coupe d'Europe.
Très bien. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Merci donc à Vanessa et puis à notre ami Alexandre. On passe le témoin maintenant à toute l'équipe de LAG pour Au bout du foot. Merci à Jason pour la mise en place technique de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et on finit naturellement en musique. Belle soirée à toutes et à tous. Et vive le sport plus que jamais.
Belle soirée. Put my arms around every
faith.